Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial éditeur indépendant.
L'album de la comtesse,
alors bonjour Yann Plan.
Bonjour.
Alors tu es aujourd'hui avec nous en studio. On va parler un peu de ton travail d'éditeur indépendant, puisque tu te lances en fait. C'est assez récent. D'abord on va faire connaissance avec toi quand même, parce que j'ai cru comprendre que t'es passionné de littérature d'horreur, t'es passionné de cinéma un peu barré, enfin de plein de choses, musique, BD, mais tu te lances toutefois dans pour l'instant l'édition de BD. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Est-ce qu'un jour t'envisagerais pourquoi pas d'éditer des livres sur le cinéma, d'éditer d'autres types de livres, voilà, et pourquoi avoir choisi la BD donc?
Alors, c'est une question compliquée, je vais essayer d'être succinct. Non, éditer des livres sur le cinéma, je ne me sentirais pas la légitimité de le faire, même si je suis un passionné de cinéma. En fait, j'ai eu des phases, comme probablement beaucoup de gens. J'ai été nourri à la bande dessinée quand j'étais enfant, donc ça a été une véritable passion avec la BD franco-belge, voilà, les super-héros aussi, ce qu'on trouvait, les éditions Lug, qu'on trouvait dans les presses. Donc j'en lisais beaucoup, j'étais très consommateur. Ma maman m'encourageait beaucoup puisqu'elle m'achetait les albums de Tintin au fur et à mesure, tout en me disant quand même que la BD c'était quand même pas terrible, hein. Donc elle me faisait lire, mais d'un autre côté il y a un petit côté sadique quand même, faut pas lire que ça, il faut lire d'autres choses, c'est peut-être pas l'idéal, hein. Et puis j'ai lâché la bande dessinée quand je suis arrivé au lycée. Là je me suis passionné pour le cinéma, donc un autre art visuel. Et donc là, j'ai avalé beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, je me suis passionné pour beaucoup de choses. Et la bande dessinée est arrivée, curieusement, est revenue par la fenêtre, d'une certaine manière, par le biais du cinéma. J'étais abonné à la revue Mad Movies et ils avaient une rubrique sur la bande dessinée. Et il chroniquait dedans, dans un des numéros que j'ai reçu, un film adapté d'une bande dessinée d'Alan Moore, hein, donc qui s'appelle From Hell, que beaucoup ont probablement vu. Et ça m'a beaucoup intrigué, je suis allé à la librairie, j'ai acheté cette bande dessinée, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté. Et je me suis plongé dedans, ça m'a pris des heures et des heures de lecture, je ne suis pas sorti de ma chambre, j'ai été complètement absorbé. Et les films sont d'ailleurs assez décevants, d'ailleurs les adaptations cinématographiques, Alan Moore lui-même d'ailleurs les réprouve, hein, pour une question de droit, il n'a pas pu empêcher la réalisation de ses films, mais il a un regard très, très dur vis-à-vis de ses adaptations. Bref, ça a été vraiment la nouvelle ouverture sur la bande dessinée. J'ai découvert la bande dessinée alternative et ça m'a refait tomber dans la bande dessinée. Et là, j'ai découvert un autre monde, celui de la bande dessinée alternative, que j'ai creusé. Donc, je suis remonté aux sources, donc avec Robert Crumb et puis toute la vague underground des années 60-70 aux États-Unis, jusqu'aux expérimentations qui se sont faites en Europe, en France, avec l'association. Et puis, il y a quelques années, j'ai découvert encore une autre couche du millefeuille, c'est-à-dire le fanzina, en fait. Donc, un monde un petit peu plus dissimulé encore, où il y a des auteurs et des artistes qui s'expriment à travers des petites publications, quand ils débutent, par exemple, mais pas seulement. Et en fait, le déclencheur, ça a été les discussions avec certains de ces artistes américains, notamment, qui m'ont dit « Ah, ça te dérangerait pas de nous traduire quelques planches de BD, un album, etc. » Donc j'ai eu plusieurs demandes de cette nature. Et comme j'ai toujours eu une aspiration profonde à participer d'une manière ou d'une autre au monde de l'édition, je me suis dit que peut-être j'avais un rôle à jouer dans ce domaine. Voilà comment ça a démarré.
Ah, c'est là que tu fondes donc Zine Panic. Donc le nom Zine Panic, c'est en référence à ta passion pour le fanzina autour de la BD.
C'est ça, le zine pour fanzine donc, et Panic en fait. Le premier livre qu'on sort s'appelle Et vient la nuit, et dans ce livre le personnage principal discute avec un autre personnage et lui dit je suis vraiment trop mauvais pour nommer des projets, ça me prend des heures, des jours, je me creuse la tête et puis finalement je regrette à jamais le nom que j'ai finalement choisi. Et moi c'est un peu pareil en fait, je suis vraiment nul pour nommer des projets, mais je suis toujours déçu par ce que je choisis. Donc une fois que je m'étais décidé à lancer effectivement cette petite maison d'édition, j'ai pris ça très au sérieux. Il me faut un nom sérieux, il me faut quelque chose qui représente ce que je veux faire. Sinon, je vais avoir du mal à l'assumer. Et donc, ça m'a pris des jours et je cherchais. Et j'étais pas content de ce que je trouvais. Et puis un jour, je voulais simplement lire un livre le soir. Donc, je furetais dans ma bibliothèque. Et puis, mon doigt s'est arrêté sur la tranche d'un livre de Topor qui s'appelle Café Panique. Et voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup, un artiste surtout que j'aime beaucoup. Et ça a fait sens tout d'un coup. Je me suis dit, Zine Panique, voilà, ça me plaît bien.
D'ailleurs, tu as toi-même puisque tu as un compte Instagram hein, au nom de Yann Plan, voilà, tu as toi-même une énorme collection de fanzines.
Oui, ça a commencé il y a quelques années quand j'ai découvert effectivement le monde du fanzina, que je connaissais déjà, mais dans lequel, pour des raisons que je n'identifie pas tellement, mais dans lequel je n'étais pas vraiment tombé finalement. Et quand ça s'est présenté il y a quelques années, j'ai mis le doigt dedans et j'étais complètement happé en fait. Donc là, effectivement, chaque semaine, je reçois plusieurs fanzines du monde entier. Donc j'essaye de gratter des choses dans des pays un petit peu qui ne sont pas forcément reconnus pour leur production en bande dessinée. Et voilà, j'en reçois chaque semaine. Donc je suis un gros lecteur de fanzines. Et puis je suis toujours à la recherche aussi de beaux livres en fait. Parce que ce qui m'intéresse dans les fanzines, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Ce qu'on entend par fanzine souvent, ce sont des. Et à juste titre, parce que c'était ça à l'origine, souvent des magazines de fans qui, par exemple, traitaient de cinéma, de bande dessinée. Mais aujourd'hui, ça a pris quand même un sens beaucoup plus large. On a des artistes qui font eux-mêmes des fanzines, qui font leur propre production. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent très artisanal. Donc ce qu'on ne pourrait pas faire par exemple dans un livre, on va dire, standardisé, un éditeur traditionnel, un auteur par exemple qui a envie de produire un livre particulier, avec un format particulier, avec des méthodes d'impression particulières, il n'a pas à négocier avec un éditeur la difficulté du tirage, la difficulté, le coût, il peut le faire lui-même à des petits tirages par exemple. Et moi je suis à la recherche justement de ces petites pépites d'édition, voilà, des choses assez incongrues, des choses qu'on ne voit pas habituellement. Ouais, ça m'intéresse beaucoup.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les nouveaux procédés d'impression à des coûts quand même assez faibles, permettent de sortir des beaux objets en tout petit tirage.
Tout à fait. Et ce qui est génial, c'est qu'on retrouve en fait tout l'éventail. On a encore des gens qui fabriquent, des artistes qui fabriquent des livres vraiment dans l'esthétique do-it-yourself, vraiment punk. Donc des choses qui sont photocopiées, agrafées, mal découpées. Voilà, mais si ça correspond au fond, finalement, c'est plutôt chouette. Et ça m'intéresse aussi. Et donc on a tout l'éventail de ça jusqu'à des livres vraiment très sophistiqués, avec des méthodes d'édition particulières. Voilà, on a des modes aussi qui reviennent. On pourra peut-être parler de rhizographie peut-être un peu plus tard, mais ouais, c'est vraiment extrêmement riche.
Oui, alors en plus, c'est vrai que peut-être moins en Europe, même s'il y a une grande tradition du fanzine en France par exemple, hein, mais aux États-Unis c'est quelque chose de très ancré. Si on prend par exemple même des auteurs qui ont eu pignon sur rue, je pense à Von Bode, tu parlais de Robert Crumb, qui ont eu leur fanzine, enfin qui ont continué à faire des fanzines même quand ils avaient des boulots professionnels. Il y a même des dessinateurs plus célèbres, on va dire entre guillemets, mais Crumb et bon, Bode est oublié quand même. Moi c'est un dessinateur que j'aimerais bien qu'on réédite des choses de Bode, parce que c'est un dessinateur complètement oublié qui a influencé en plus beaucoup de graffiti artistes, qui est un dessinateur assez génial. génial. Hein. Et, mais il y avait même des gens comme Neil Adams, tout ça, qui avaient leur fanzine. C'est quand même plus... aux États-Unis, c'est quelque chose de très prégnant quand même.
Oui, je te rejoins. Il y a clairement une culture zine très imprégnée en France, mais aux États-Unis, c'est quand même très particulier. Et culturellement, c'est quand même particulièrement ancré. Et ce qui est quand même assez remarquable, c'est que même des artistes, effectivement, qui ont pu commencer par le zine ou pas d'ailleurs, qui deviennent reconnus, certains d'entre eux continuent effectivement de produire des zines, des livres qui sont auto-édités, auto-produits. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. On remarque aussi qu'il y a beaucoup d'événements autour du zine aux États-Unis, et parfois de très gros événements. Il y a des codes. Voilà, c'est vraiment un monde à part et c'est vraiment un monde qui existe pas en dehors finalement des maisons d'édition traditionnelles. C'est quelque chose d'assez curieux. On a ce monde de l'édition avec les gros éditeurs. On a ces artistes qui auto-éditent. Et entre deux, on a une sorte de... je ne sais pas trop comment le définir, mais on a ces activités qui se poursuivent. Donc on a des auteurs qui parfois ne sont pas édités et font que du zine, des auteurs qui ont commencé par le zine, deviennent édités par des grandes maisons d'édition et puis reviennent au zine après. C'est assez curieux. Je prendrais par exemple un auteur comme Simon Hanselman, qui est une des nouvelles stars de la maison d'édition Fantagraphics, qui est un auteur australien qui réside à Seattle maintenant. Voilà, c'est un personnage qui est assez connu dans le monde de l'édition aujourd'hui, même si c'est l'édition alternative. Il y a eu des grands entretiens dans Libération, il a été prépublié dans Libération en France, il y a eu de nombreux articles, il a eu des prix à Angoulême, donc il est reconnu. Et pourtant, il a commencé par le zine, il continue à produire des zines, et je dirais même que c'est presque économiquement son activité principale, de son propre aveu. Il gagnerait même plus d'argent avec ses zines qu'il autoproduit qu'avec les donc dont il récolte tous les bénéfices en quelque sorte qu'avec les livres qu'il édite à travers Fantagraphics ou les autres maisons d'édition.
Éditeur indépendant.
C'est vrai qu'aux États-Unis, la condition des auteurs qui autopublient est assez difficile. Il n'y en a aucun d'entre eux qui vit de sa passion et de son art. Je dirais même que même les auteurs qui sont édités par les maisons d'édition traditionnelles ne vivent pas de la bande dessinée. Ce petit groupe d'auteurs qui vit de ce travail est quand même excessivement restreint. La plupart des autres, en fait, sont plutôt en difficulté et sont bien obligés de travailler, donc soit comme graphiste, soit passer par des commandes. Par exemple, ils exécutent des commandes, mais effectivement, je dirais, enfin, je ne vais pas citer un chiffre jeté en l'air, mais en tout cas, l'écrasante majorité d'entre eux ne vit pas effectivement du fanzine et de la bande dessinée.
Et toi, quand tu fondes Zine Panique, pourquoi tu fondes Zine Panique d'ailleurs? Parce que de toute façon, pourquoi on devient éditeur? C'est quand même un drôle de... Un matin, on se réveille, on dit tiens, je vais éditer des livres, et là, en l'occurrence, des BD.
Oui, alors moi je suis originaire d'une famille modeste et dans ma famille le livre c'était une richesse extraordinaire, en tout cas on me l'a toujours présenté comme ça, voilà, c'était quelque chose de très précieux, donc j'ai un rapport au livre très spécial. Après je suis amateur de littérature, j'ai lu beaucoup, j'ai un rapport physique au livre très spécial comme beaucoup d'autres personnes. Moi j'aime bien toucher les livres, j'aime bien sentir les livres, sentir les encres, sentir les papiers, voilà, j'ai un rapport vraiment très physique au livre. J'ai beaucoup de difficultés à lire sur une tablette, bon, ce que je ne fais jamais, même sur ordinateur, c'est difficile pour moi. Donc ce rapport au livre très particulier, je l'ai toujours eu. Alors pourquoi me lancer véritablement dans le monde de l'édition ? J'ai toujours pensé que j'ai toujours eu envie d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans le monde de l'édition. J'ai jamais trouvé véritablement la porte, l'opportunité. Et puis c'est ça, c'est avec ces discussions avec les artistes, en particulier des artistes américains, qui m'ont demandé, certains d'entre eux effectivement, si je pouvais traduire certains de leurs zines ou quelques planches. Et je me suis dit que là, il y avait peut-être quelque chose à faire, j'avais peut-être un service à rendre, hein, puisqu'on en parlera sans doute, mais on est une association à un but non lucratif. Et mon idée, c'était ça, c'était de finalement faire connaître mieux la bande dessinée alternative. et puis peut-être rendre service aux auteurs, en tout cas la hauteur de ce qu'on pouvait procéder, de ce qu'on pouvait proposer. C'est vrai que quelque chose qui m'a toujours gêné avec la bande dessinée, c'est quelque chose d'assez curieux que je vais vous avouer là, mais quand je rencontre quelqu'un, quand on parle de nos passions communes, ça m'arrive de me réfréner, de dire que j'aime la bande dessinée parce que souvent c'est associé à des poncifs qui correspondent plus forcément à la réalité. Souvent on entend par bande dessinée des choses un peu paresseuses, donc c'est pour les gens par exemple qui sont trop fainéants pour lire des livres sans images par exemple, ou alors ça va être associé à un plaisir infantile, voilà, on va associer ça à des séries qui ont tout leur mérite d'ailleurs, hein, mais qui ne sont pas toute la bande dessinée. La bande dessinée c'est tellement plus, c'est un véritable art dans le sens où voilà, c'est un art qui est assez Balzac pour moi aujourd'hui, et je pense qu'il y a des choses qui sont produites aujourd'hui dans la bande dessinée qui sont tout à fait à la hauteur de ce qui se produit de mieux dans la littérature. Seulement, c'est pas forcément toujours mis en avant sur les rayons des librairies. Et moi, j'avais envie de parler de ça, j'avais envie de proposer d'autres lectures, j'avais envie de mettre en avant des auteurs, des pépites, des livres qui me paraissaient vraiment avoir le mérite justement de contribuer à sortir la bande dessinée de ses poncifs.
Après, moi, je suis franco-belge. Alors, c'est vrai qu'en France, les BD sont peut-être pas mis. Mais en Belgique, ça pose pas de problème. Hein. Par contre, il y a un rapport très différent à la BD. Voilà. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on considère ça comme quelque chose d'infantile. Quoi. Enfin, les choses évoluent quand même. Aujourd'hui, on le voit, les gros éditeurs aussi sortent des choses aujourd'hui qui sont quand même, et puis on le voit dans le traitement critique aussi de la bande dessinée.
Oui, les mentalités évoluent vraiment. Il y a des grandes expositions dans des lieux prestigieux. Il y a eu Crumb au Musée d'Art Moderne de Paris. Il y a eu Hergé récemment également qui a été exposé à Paris. Il y a des galeries spécialisées qui sont de plus en plus prestigieuses qui se basent uniquement sur la vente d'originaux de bande dessinée. Aujourd'hui, les originaux de bande dessinée sont aussi présents dans les ventes chez Christie's, dans les grandes maisons de vente. Donc c'est vrai que la bande dessinée a plus de visibilité. Voilà, tout de même, elle continue à avoir des difficultés à s'imposer véritablement comme quelque chose d'honorable ou quelque chose qui serait d'un point de vue littéraire ou parfois quelque chose de qualité. Ce qui est assez regrettable, encore une fois, et ce qui mérite d'être porté à la connaissance du grand public, je crois.
Alors après, c'est vrai qu'on avait la chance de passer une demi-journée avec Philippe Drouillet qui nous disait quand même qu'effectivement le fait que désormais il y ait des ventes de ces planches, ça lui a changé la vie, quoi. Ça a fait de quelqu'un qui devait faire des travaux alimentaires quelqu'un qui peut choisir ce qu'il fait aujourd'hui en tant qu'artiste. C'est pas rien, quoi. Mais c'est vrai que Drouillet, c'est un exemple, comme Bilal. Enfin, ce sont quelques exemples. Et à côté, il y a plein d'auteurs pour qui c'est plus compliqué.
Voilà. Ouais, pour la grande majorité, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quelques auteurs qui vont profiter effectivement de la vente de leurs planches. Donc c'est tout à fait profitable et c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal. C'est assez amusant, ces histoires de planches originales. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires sur comment ça se passait dans les années 60, 70 par rapport à ces originaux. Hein. On raconte que Franquin, dans les imprimeries, il marchait sur ses planches originales et les distribuait à qui se présentait. Ça n'avait aucune valeur. C'était des documents de travail, on considère. Je dirais que le produit final, c'était pas la planche originale, le produit final, c'était le livre, véritablement. Et donc, ça n'avait pas beaucoup de valeur. Il y avait quelques illuminés qui s'intéressaient comme ça aux planches originales et qui ont cumulé des collections absolument hallucinantes pour quasiment presque rien, hein, finalement. Et aujourd'hui, effectivement, ça a pris une dimension toute différente, alors qui peut être contestée d'ailleurs, parce qu'effectivement, dans la bande dessinée, c'est pas comme la peinture. Voilà, ce qu'on garde de la bande dessinée, c'est le livre, finalement. Dans la peinture, c'est la toile, hein, voilà, qui reste. Dans la bande dessinée, c'est le livre. Alors, quelle est la place de la planche originale? Ça, c'est vraiment un sujet tout à fait passionnant et qui revient très souvent dans le monde de la bande dessinée actuelle.
Ouais, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que récemment, dans l'autobiographie de Jean-Pierre Dionnet, qui s'appelle Mémoire en deux mots, il le dit lui-même. Hein, c'est-à-dire que bon, Moebius distribuait ses planches comme ça. Enfin, pour eux, ça n'avait aucune valeur, quoi. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez surprenant aujourd'hui quand on connaît tout le business, d'ailleurs, même un peu surréaliste, hein, par rapport au prix de certaines planches. Alors, ta démarche à toi, elle est... Alors déjà, tu l'as dit, tu as choisi la structure loi 1901, quoi, structure associative. Déjà, pourquoi ce choix? Parce qu'après tout, aujourd'hui, il existe plein de types de statuts qui pourraient te permettre d'être, entre guillemets, un entrepreneur, on va dire plus classique. Toi, tu choisis l'association loi 1901. Déjà, pourquoi ce choix?
Alors pourquoi ce choix? Ça nous a paru une évidence dans la mesure où notre démarche n'était pas du tout intéressée financièrement. Voilà, donc on voulait vraiment fonctionner de manière, enfin voilà, travailler avec une structure à but non lucratif. Alors ça ne signifie pas pour autant qu'on ne veut pas être rentable, parce que ce qui va permettre la production des autres livres, c'est la vente des précédents, bien sûr. Mais voilà, l'idée était là, vraiment, c'était qu'on voulait s'inscrire dans quelque chose, dans une démarche. Donc bon, c'est un tout en fait. On sait que par exemple les auteurs sont très peu rémunérés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour leurs efforts sur des bandes dessinées, sur des travaux, des projets qui peuvent parfois leur prendre des années pour certains albums. Ils sont rémunérés en général à hauteur de 4 à 7%. La plupart du temps, c'est à peu près ça par rapport aux ventes d'albums. Donc nous, on voulait s'inscrire vraiment dans une démarche militante, on peut dire engagée d'une certaine manière. Donc voilà, on voulait faire ce travail, mettre en avant des auteurs méconnus, en fait. Voilà. Donc, c'est-à-dire essayer d'aller chercher des productions, des livres qui n'ont pas trouvé le chemin des éditeurs habituels à cause de leur format ou à cause... en raison d'un jeune auteur qui débute, par exemple, qui ne s'est pas encore fait de nom, et puis essayer de leur permettre d'avoir une visibilité en France, parce que, voilà, on en parlait, la France, c'est quand même un très gros marché pour la bande dessinée. On considère souvent que c'est le troisième marché mondial. Et notre idée, voilà, c'était de mettre en avant des auteurs à titre totalement gracieux. Donc on traduit leur production. On s'occupe ensuite de la distribution. Les auteurs, eux, gardent le contrôle sur leurs livres, parce que c'est eux qui vont travailler sur le maquettage, ce qu'ils savent faire, puisque de toute façon, puisqu'ils autoproduisent la plupart du temps leurs propres livres. Et puis l'idée, c'était aussi de les rémunérer correctement, en tout cas dans l'idée, puisqu'on fait des tirages assez limités et par conséquent on ne peut pas leur verser des droits d'auteur qui sont énormes. Mais voilà, nous on est parti, par exemple, on est parti sur 10% de droits d'auteur. Donc encore une fois, sur le nombre d'exemplaires que l'on tire, ça ne fait pas une somme énorme au final. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche différente. L'idée aussi, c'était... un peu en réaction à la crise que connaît le monde de la bande dessinée aujourd'hui, qui est un peu à l'image du livre de manière générale. On pourrait penser, quand on regarde les étals des librairies, que ça se passe très bien. Finalement, il y a énormément de sorties, donc on pourrait se dire que le monde de l'édition va bien, mais en fait, il se porte très très mal. Il y a cette fameuse surproduction qui a pour conséquence que les libraires n'ont pas le temps finalement de faire vivre les livres. Ils ne sont pas présents sur les étals, ils sont présents 2, 3, 4 jours. Et puis, vu le flux de nouveautés qui arrivent régulièrement, ils sont obligés de renvoyer souvent les livres avant même qu'ils aient pu avoir leur chance. Et le résultat pour ces livres-là, c'est systématiquement le même, hein, c'est le pilon. Et voilà, donc nous, ça peut paraître paradoxal, parce que nous, on arrive et on propose une autre structure d'édition supplémentaire. Donc on pourrait se dire, on rajoute à la surproduction. Mais l'idée, c'est d'essayer de proposer une démarche différente. Voilà, donc nous, on part sur des petits tirages. On va essayer de faire vivre nos livres jusqu'au bout. Et c'est seulement si on vend nos livres qu'on pourra produire d'autres livres. Voilà, donc l'idée de la structure à but non lucratif, elle était là finalement, c'était dans notre démarche. Where they do the hula hula dance. I fell in love with a chocolate dove while learning the funny funny dance. This poor little kid, why she never did been loving before. So I made up my mind, I tried to find the only girl that I did love. Well, I love a pretty little Alma Holly, a hula girl. She's the kind to make you giggle, hula girl. She'll surely make you giggle, hula girl. With an odd little wiggle, someday gonna try to make her hop a holly. Girlie of mine, girlie of mine. All the time I'm dreaming of her, I'm a holly hula girl.
Vous écoutez Yann Plan au micro de Culture Prohibée. Et le premier titre, justement, s'appelle « Et vient la nuit » et c'est une BD de Travis Romerheim. Est-ce que tu peux à la fois nous présenter cette bande dessinée? Après, on parlera du procédé d'impression parce que c'est un bel objet. Mais à la fois de nous présenter l'auteur et cette bande dessinée qui est une... Si j'avais envie de résumer cette BD, je dirais que c'est un peu une BD singulière avec un... en gros un artiste au visage masqué qui, dont le meilleur ami est un peu, qui va avoir sa première expo et dont le meilleur ami est un peu une tête coupée mais vivante. Voilà, c'est sur laquelle il passe ses nerfs d'ailleurs parfois.
C'est ça, exactement. Alors c'est très difficile de résumer ce livre, pourtant Dieu sait que je le connais bien puisque c'est moi qui en ai fait la traduction. J'ai échangé beaucoup avec l'auteur, donc il s'appelle effectivement Travis Romerheim. Juste en deux mots sur Travis, donc c'est un auteur qui est un artiste qui est basé à Seattle. C'est un artiste qui n'a jamais été édité par les maisons d'édition traditionnelles. Et il y a quelques mois, c'était l'année dernière, je crois, je suis tombé, ça fonctionne par réseau, hein, je suis tombé sur une information, quelques images d'un zine qu'il avait lui-même imprimé. Le visuel m'a beaucoup interpellé, c'est une des cases de l'album et qui est d'ailleurs un hommage à Raymond Petitbon. Et donc j'ai commandé ce zine, je l'ai reçu, je l'ai adoré à la première lecture, je l'ai adoré à la deuxième lecture. Et donc du coup j'ai envoyé un petit message à l'auteur, à qui j'avais commandé d'ailleurs l'album, pour lui faire part un petit peu de mes impressions. On a commencé à échanger. Et lorsque l'idée de Zine Panic est apparue véritablement et qu'on s'est décidé à se lancer, je lui ai proposé l'aventure. Donc Travis est un Américain basé à Seattle. Et quand je lui ai proposé, il était tout de suite partant. Alors, résumer le livre, c'est vraiment difficile. Il a déjà été lu par quelques personnes, puisqu'on a vendu déjà quelques exemplaires. Et les retours que j'ai eus, c'est des retours assez déstabilisés de gens qui étaient un peu, qui trouvaient que le livre était assez surréaliste par certains côtés. Ils avaient du mal à se positionner. Et le conseil que j'aurais donné, c'était de le relire une deuxième fois, peut-être. C'est difficile vraiment de le résumer. Ce que je dirais, c'est que c'est peut-être ce qu'il résume le mieux. On pourrait dire que c'est la plongée dans l'esprit torturé d'un jeune artiste. Voilà, je crois que c'est la meilleure façon de le résumer.
On est assez d'accord. Bon, moi, je l'ai lu qu'une fois, hein, mais je le relirai peut-être. Mais bon, c'est vrai que c'est particulier. Alors, en plus, graphiquement, c'est particulier parce que graphiquement, on s'était vu avant de faire cette interview et je t'avais dit que moi, j'y voyais aussi des liens, par exemple, avec le manga Dragon Head, qui est un manga de Minetaro Mochikuzi. Je ne sais pas si je le dis bien. Il y a effectivement des. Alors, en même temps, il y a aussi un côté comics, il y a aussi un côté BD européen. Enfin, c'est un peu comment dire, au carrefour de diverses influences, quoi.
Ouais, complètement. C'est vrai qu'on peut y retrouver, on peut y voir énormément de choses. J'ai pas interrogé Travis sur ses intentions véritablement parce que moi j'ai mon interprétation du livre et de ses influences, et c'est vrai que j'ai voulu me garder mon impression. Donc même sur l'interprétation du livre, je l'ai pas interrogé, je lui ai pas dit voilà ce que je pense du livre, voilà mon interprétation, est-ce qu'elle est bonne, est-ce que c'est ce que tu as voulu dire. Voilà, moi c'est mon interprétation, et j'aime bien aussi cette idée que le livre peut exister en dehors de l'artiste et que chacun peut se l'approprier à sa manière. Donc c'est vrai que pour revenir sur le côté graphique, on peut y voir différentes influences, effectivement. Travis, il a un trait assez élégant, c'est assez épuré, c'est assez joli, si on devait le résumer sur le plan graphique.
Et c'est imprimé, donc tu en as un peu parlé tout à l'heure, c'est imprimé en risographie. Alors ça donne un bel objet, l'impression est singulière. Là, on a de toute façon un objet qui est bleu et blanc. Voilà. Et c'est quoi la risographie pour le béotien que je suis ?
Alors la risographie, c'était une technique d'impression qui était assez en vogue dans les années 70, qui est tombée en désuétude ensuite et qui revient en force depuis quelques années dans le monde de l'auto-édition et de la small press, parce que c'est un procédé d'impression qui est assez peu onéreux. La caractéristique, ce qui est vraiment caractéristique, parce que là, pour le coup, on a vraiment quelque chose de spécial, c'est que on ne peut pas imprimer toutes les couleurs en même temps. Donc, il faut passer la feuille, si vous voulez, la page, il faut la passer autant de fois qu'il y a de couleurs. Donc, ce sont des couleurs qui se juxtaposent. Et la caractéristique, c'est que parfois, ça se juxtapose pas exactement comme ça devrait. Donc, ça donne un côté un petit peu incertain. Et puis les couleurs ont aussi un aspect assez vaporeux en fonction du taux d'ancrage que vous allez mettre. Donc là, vous pouvez mettre plusieurs intentions différentes en fonction de ce que vous voulez montrer. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un outil intéressant, la risographie. Vraiment un outil très très intéressant. Ouais.
Est-ce que tu peux dire à nos auditrices et auditeurs, c'est quand même le plus important, comment ils peuvent se procurer les ouvrages édités par Zine Panic.
Alors le choix qu'on a fait au niveau de la distribution, c'est de ne pas être présent en librairie pour tout un tas de raisons. La première étant que les libraires demandent en général donc à ce qu'on leur fasse une remise libraire hein, pour pouvoir présenter le livre en librairie. Ce que nous ne pouvons pas nous permettre parce que le prix qu'on fixe pour nos livres sera toujours très proche du prix de revient. Donc si on comptabilise et le coût d'impression et les droits d'auteur, finalement, pour ce qui nous concerne sur une production de 100 livres, il faut qu'on en vende 94 pour se rembourser de l'investissement et pour pouvoir ensuite produire d'autres livres. Donc la librairie, c'était un choix voilà, qu'on a pas pu faire. Notre seul partenaire, pour ceux qui sont du côté de Lille, c'est la librairie BD Plus Café. Alors c'est un petit peu particulier, parce que c'est un peu notre repère, c'est un peu mon repère depuis des années, donc le libraire voilà, nous connaît très bien, il nous a fait des conditions, voilà, il nous présente notre livre, pour ainsi dire, gratuitement en librairie, donc le livre est disponible là-bas pour les Lillois, et sinon donc, on fait de la vente en ligne, on a une boutique Big Cartel. Et puis, ce sur quoi on compte, forcément, parce que dans ce domaine-là, c'est forcément le lieu où on va vendre le plus, ce sont les salons, les festivals. Là, on a fait une demande pour être présent au spin-off d'Angoulême, c'est-à-dire le festival off à Angoulême. Et voilà, on est en attente de réponse et on espère avoir une réponse positive pour pouvoir présenter notre bébé au monde de la bande dessinée.
Est-ce que tu as déjà en tête des futurs ouvrages ? Je sais que toi-même, tu as ta propre production, parce que là, j'ai un fanzine signé de ta main, voilà. Et est-ce que tu envisages de te publier ? Puis est-ce que là, tu as déjà en tête des ouvrages, des choses qui te plairaient à l'avenir pour les sortir chez In Panic, quoi ?
Alors, il y a deux choses différentes, effectivement. Moi, je dessine un peu, mais c'est vraiment pour les copains, en fait, pour se faire plaisir. Donc, vraiment dans l'optique zine, l'optique d'origine, on va dire, vraiment, où voilà, la distribution est excessivement limitée. C'est vraiment pour se marrer avec les copains, pour faire plaisir aux amis. Donc ça, voilà, c'est strictement séparé Zine Panic. Je vais pas essayer de me faire éditer ni chez nous, ni ailleurs. C'est vraiment pour le plaisir, mais j'ai beaucoup de projets, voilà, parce que ça, c'est un des messages qu'on veut passer aussi, c'est que le zine, tout le monde peut en faire. Alors forcément, ce ne sera pas toujours de qualité équivalente, mais on peut régaler tout le monde, on peut se faire plaisir, c'est une aventure qui est vraiment très sympa à vivre soi-même. Et puis concernant Zine Panic, oui, on a un deuxième livre qui est sur le feu en réalité, parce qu'on va marcher par saison en fait. Donc cette année, la saison 1, c'est la saison du début. On a injecté suffisamment d'argent pour pouvoir se permettre de produire deux livres, hein, pour pouvoir démarrer. Donc notre deuxième livre est en préparation, c'est également avec un auteur américain et quelque chose d'assez différent de ce que propose Trévis dans notre premier titre. Et le point commun, c'est qu'on va essayer de fabriquer un livre à nouveau qui sort des sentiers battus en matière d'impression. Donc on va essayer de s'adapter au contenu. Et cette fois-ci, donc, on ne partira pas sur de la risographie, on sera sur quelque chose de très différent. On est en discussion en ce moment avec l'imprimeur. Et c'est là aussi qu'on veut se différencier. Nous, on ne veut pas sortir de livres standardisés, en fait. Non pas que ça soit forcément mal en soi. Hein. Moi, j'aime bien le 48cc, hein, ce qu'on appelle le 48cc. Hein, mes Tintins, ils sont comme ça. Voilà, toutes les BD franco-belges sont sur ce format. Mais nous, on a envie de produire, comme on a cette possibilité cette liberté et puis cette possibilité, on a envie de produire à chaque fois des livres un petit peu différents dans leur format. Donc celui-ci, le premier est carré en risographie, le prochain sera dans un format différent avec une technique d'impression différente. Et là, notre grosse problématique, c'est la problématique du papier qui me tient beaucoup à cœur. Et là, on essaye de réfléchir au papier qui serait idéal. On ne veut pas d'un papier ordinaire, glacé, on veut quelque chose de très spécifique parce que le contenu lui aussi va être très spécifique. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus et ça s'amuse. Là, en ce moment, je suis en train d'échanger avec l'auteur dont je lui ai fourni la traduction. Il est en train de... Moi, je ne veux pas de traduction avec comme font certains éditeurs, qui consiste à prendre une police d'ordinateur traditionnel et qu'on va coller dans les bulles ou dans les cartouches à la place du lettrage d'origine de l'auteur. Moi, j'adore le lettrage. J'estime que ça fait partie intégrante du travail graphique. Et donc, je demande à mes auteurs, une des conditions pour travailler avec les auteurs, c'est qu'ils reproduisent leur lettrage dans la version française. Et donc là, l'auteur avec qui on travaille actuellement, il est plus fou que moi encore sur la question du lettrage. Lui, il supporte pas dans les livres qui est deux R identiques. Donc lui, ça le sort de sa lecture. Donc lui, il est encore plus obsédé que moi sur cette question-là. Et donc là, il m'a envoyé une photo amusante. Je lui ai envoyé la traduction. Donc, et là, il est en train de faire des lignes. Donc il recopie à la ligne tout le texte en français. Voilà. Donc je me suis amusé, je l'ai un peu vanné en lui disant « Bon, ça va, c'est pas trop dur l'entraînement intensif en français. » Je lui ai dit « Tu dois suer des gouttes sur les accents sur les voyelles. » Il m'a répondu « Non, je m'éclate, j'adore, c'est super. » Voilà, donc c'est en cours et ça devrait sortir normalement courant janvier en espérant pouvoir le présenter à Angoulême, puisque Angoulême se déroule fin janvier.
Un autre éditeur indépendant qui sévit dans un autre domaine, et lui depuis plusieurs années, c'est David Didelot. Alors, pendant des années, il a édité le fanzine Vidéotopsie, pendant d'ailleurs une vingtaine d'années. Hein, voilà. Et depuis quelque temps, il s'est lancé dans des ouvrages. Alors après, une autobiographie qui, je le rappelle, est disponible dans notre librairie en ligne, hein, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Il a sorti un autre ouvrage que vous pouvez également vous procurer sur notre site et qui est consacré au monstre de Florence, le fameux tueur en série, ou les tueurs en série, d'ailleurs, on ne sait pas. Et il s'intéresse dans ce livre à tout l'aspect culturel autour de ce tueur, c'est-à-dire comment il a irrigué la culture populaire et comment le mythe s'est aussi nourri d'éléments de culture populaire, y compris dans la légende de ce tueur, puisqu'il existe plein de théories, toutes plus passionnantes les unes que les autres. Donc on va tout de suite en discuter avec David Didelot. David Didelot au micro de Culture Prohibée. Nous sommes en ta compagnie aujourd'hui, David, parce que même si tu étais venu dans notre émission pour aborder ton autobiographie Ripley, pour aborder également la fin du fanzine Vidéotopsie, tu n'as pas non plus stoppé tes activités d'éditeur, de rédacteur, d'écrivain, de critique de cinéma, voilà, et tu continues aujourd'hui à travers une sorte d'ouvrage, un prosine, hein, qui est consacré au monstre de Florence, qui s'appelle « Le monstre de Florence, autopsie d'un mythe criminel ». En gros, 70 pages en couleur, très bien maquettées d'ailleurs, très jolies, introduites par le fameux Zaroff, oui. Sur le monstre de Florence. Pourquoi, tout d'abord, la question peut paraître bête, mais quand même, pourquoi te consacrer comme ça 70 pages au monstre de Florence ?
Alors, écoute, c'est vrai que la genèse en fait du projet, si tu veux, est très rapide en fait. J'ai envie de te dire, elle sera très vite résumée. Écoute, c'était l'été de cette année, tu vois, l'été dernier, j'étais chez un copain, tu vois, avec quelques amis, et on a commencé à discuter cinéma, bien sûr, tu vois, et on discutait du film Hannibal, tu sais, de Ridley Scott. Et donc, à un moment donné, on parle du film, on ne tarit pas d'éloge, tu vois, sur ce film-là, on aime beaucoup et tout. On commence à parler de la ville de Florence, de la manière dont elle est montrée dans le film de Ridley Scott, on s'extasie sur le film, sur la photo, sur le décor, etc. Et puis, d'un coup, en tête, cette affaire du monstre de Florence, qui est assez peu connue, finalement, en France. Si tu veux, par rapport à d'autres affaires criminelles beaucoup plus célèbre, hein, de tueur en série beaucoup plus célèbre. Et je commence à réfléchir à ça, au monstre sourant. Je me dis que dans le film de Ridley Scott, d'ailleurs, dans le Hannibal de Ridley Scott, tu as beaucoup en fait de références, de pas de clin d'œil, le mot est mal choisi, mais enfin, tu vois, de prolongements liés à cette célèbre affaire criminelle en Italie. Et je commence un peu à creuser la chose, à creuser un petit peu l'affaire. Tu vois, je me renseigne, j'achète des bouquins, etc. Et je me dis, bon sang, il y a peut-être quelque chose à faire en rapport avec ce tueur en série, et voir en particulier l'exploitation culturelle qui a pu en être faite, tu vois, au travers des films, des giallos, bien sûr, des fumetti, enfin, tu vois, des livres, des romans qui ont pu être inspirés par cette affaire. Et je me suis plongé dedans, et comme d'habitude, quand un sujet me plaît, si tu veux, j'ai pas relevé la tête, tu vois. Et donc, pendant toutes mes vacances d'été, suite à cette conversation entre amis, j'ai rédigé ça. Alors, au départ, ça avait les dimensions, si tu veux, je m'étais dit que ça aurait les dimensions d'un dossier, tu vois, d'un dossier qui pourrait être publié dans un fanzine qui accepterait de le prendre. Et puis, petit à petit, ça a grossi, et je me suis dit, pourquoi ne pas le sortir en une espèce de fanzine, si tu veux, à tirage très limité et à sujet unique, tu vois, un fanzine un peu thématique, on va dire. Et donc j'ai décidé de publier, sans la mention Vidéotopie, hein, parce que Vidéotopie, comme tu le sais, c'est terminé. Et donc avec un petit clin d'œil quand même dans le mot autopsie, tu vois, d'un mythe criminel, quoi. Voilà comment c'est né en fait, très rapidement, et ça a été écrit très rapidement et maquetté également très rapidement. Mais il a fait un super boulot effectivement, le maquettiste. Hein. Voilà comment c'est né.
D'accord, et donc tout de suite, tu te dis, c'est Zaroff pour la préface, puisque tu restes dans ton univers de l'autopsie de la collection Gore, pour rester dans le mot autopsie aussi.
Ouais, c'est vrai, ouais. Alors écoute, ouais, ça c'est marrant, parce que alors Zaroff, tu vois, avec qui j'entretiens, tu vois, une correspondance, par les réseaux sociaux, tu vois, c'est quelqu'un, donc j'aime beaucoup les bouquins, j'avais adoré ce qu'il avait écrit pour la collection, chez Trash notamment, tu vois, notamment son Night Stalker, tu vois, qui m'avait fortement marqué, et si tu veux, je sais plus comment c'est venu, on a commencé à discuter, et c'est lui-même qui m'a dit, j'aimerais bien faire la préface de ton bouquin, hein, en tout cas de ton étude entre guillemets, tu vois. Et je lui ai dit, écoute, tu me flattes, évidemment, tu vois, t'as évidemment toute latitude, hein, et tu fais ce que tu veux, quoi, voilà. Et c'est lui qui m'a proposé en fait de faire la préface, tu vois, de mon fanzine, tu vois, et j'ai évidemment accepté avec plaisir, d'autant que je le tiens en très haute estime, j'adore ce qu'il a écrit, et puis il adore les affaires criminelles, les tueurs en série, tu vois, il s'y connaît vachement, ça le fascine, évidemment, et donc il m'a fait cette préface, tu vois, et donc c'était super, quoi, tu vois, c'était vraiment génial, j'étais hyper content, quoi, tu vois, voilà.
Oui, non, mais puis, c'est une belle préface, on sent que c'est un passionné, on sent aussi que c'est pas forcément quelqu'un qui connaît bien cette histoire du monstre de Florence dans sa préface, parce que tu le disais toi-même, en fin de compte, moi j'avais vu quelques reportages et j'avais lu aussi quelques essais éparses, mais noyés au milieu d'autres citations d'autres tueurs.
Oui.
Mais en
oui.
fin de compte, c'est quand même un tueur ou plusieurs, d'ailleurs on ne sait pas vraiment.
Tout à fait.
Assez passionnant, parce que c'est un tueur qui est un peu l'équivalent du Zodiac états-unien ou parce qu'il n'a pas été pris, ou du BTK, oui. On va dire. BTK qui a fini par être pris parce qu'il a voulu être pris, en fait, parce que sinon il n'aurait jamais été pris aussi. Est-ce que tu peux un peu parler de ce monstre de Florence ou de ces supposés monstres, un peu sans trop dévoiler de ton bouquin, mais à nos auditeurs, parce que c'est quand même vraiment une histoire très particulière et en plus qui a donné lieu à tout un imbroglio judiciaire assez délirant.
Voilà, tout à fait. Alors écoute, c'est vraiment une affaire totalement passionnante, comme tu le dis, effrayante, bien sûr, et labyrinthique, j'ai envie de te dire. Parce que, si tu veux, déjà, c'est une affaire dont on n'est pas sûr de la date de départ, tu vois, du départ. Hein, pour aller très vite, tu vois, et pour ne pas trop raconter, on va dire que les crimes qui sont commis dans la province de Florence, si tu veux, donc autour de Florence, hein, dans les collines de Toscane, s'étalent, selon les canons, tu vois, selon la doxa de l'affaire, de 1968 à 1985, avec des espaces entre les crimes commis, si tu veux, qui sont quand même relativement importants. Qui déjà ne facilite pas l'enquête, si tu veux. Bon. Et ce sont des couples qui sont tués, hein, des couples d'amoureux, des couples de jeunes gens, tu vois, qui sont dans leur voiture, à l'abri, soi-disant, enfin prétendument, des regards indiscrets et qui vont effectivement se faire tuer par un tueur ou des tueurs dont on ne connaît toujours pas en fait l'identité. Tu vois, hein, bon, voilà. Donc voilà, c'est vrai que ça ressemble, si tu veux, dans le modus operandi, dans la manière dont les meurtres sont commis, à d'autres affaires criminelles célèbres, notamment celle du Zodiac, effectivement, celle de David Berkowitz. Bon, lui, il a été pris, tu vois. Mais, puis bon, c'était urbain, pour le coup. C'était des meurtres urbains, hein, parce que c'était à New York. Hein. Bon, et là, c'est plus rural, on va dire. Mais enfin, bon, la nature des victimes, tu vois, le profil des victimes peut faire penser à ce genre d'affaires. Alors, c'est fascinant, évidemment, comme dans l'affaire de Jack l'Éventreur, comme dans l'affaire du Zodiac, c'est que le ou les tueurs n'ont jamais été pris. En tout cas, il y a eu une flopée de suspects, si tu veux, hein, qui ont été jugés, ensuite qui ont été condamnés, ensuite qui ont été, comment dire, libérés. Bref, on nage, oui, en plein brouillard, pour le coup. Voilà, il y a eu plusieurs. Bon, il y a notamment, il y a eu quelques suspects, bon, qui ont vraiment été, si tu veux, dont on pensait que c'était les criminels, mais qui ensuite ont été innocentés, qui ont été libérés. Et donc, si tu veux, au final, on ne sait toujours pas avec certitude à qui a commis ces crimes, quoi, tu vois. Ce qui rend évidemment l'affaire un peu mythique, un peu légendaire, et puis effrayante. On a même pensé à un moment donné, pour te dire, hein, il y a même eu des théories sérieuses, pour le coup, hein, qui disaient qu'en fait, c'était le Zodiac, le tueur du Zodiac, qui avait migré carrément, si tu veux, sur le vieux continent, pour perpétrer sa série de crimes. Tu vois, on est allé jusque-là, tu vois, ce qui montre qu'on était vraiment, qu'on nageait en plein brouillard, quoi, tu vois, et que toutes les théories, même les plus, les plus farfelues, tu vois, ont été évoquées. Je te passe sur le coup de la secte satanique, parce qu'il faut savoir qu'en plus, le monstre Florence, si tu veux, en tout cas sur certaines de ses victimes, prélevait, si tu veux, des morceaux de corps. Tu vois, donc le pubis de certaines nanas, le sein gauche également de certaines filles, tu vois, qui découpaient, bon, et voilà. Et donc, si tu veux, on a pensé à un moment donné, alors avec des preuves plus ou moins fabriquées à l'appui, tu vois, c'est vraiment une affaire complexe, que ça servait, si tu veux, à des rituels satanique, tu vois, mais enfin, bon, rien de probant, quoi, tu vois, au final, et donc, on est encore un petit peu dans le brouillard, quoi, tu vois, voilà, on ne sait, alors, les meurtres se sont arrêtés en 85, en tout cas, officiellement, tu vois, hein, et on ne sait pas pourquoi, réellement, on ne sait pas, un petit peu comme dans le cas de Jack l'Éventreur, c'est pour ça que dans mon bouquin, si tu veux, enfin, dans mon fanzine, je fais souvent, si tu veux, le parallèle avec l'affaire londonienne, quoi, tu vois, avec l'affaire anglaise. Parce que ça m'y a fait énormément penser, tu vois, le camion de suspect, les théories, je te dis, de toutes plus folles les unes que les autres, bref, il y a énormément de points communs avec l'affaire Jack l'Éventreur, en fait, tu vois, et voilà, c'est ce qui également m'a fasciné, quoi, m'a intéressé.
So heartless, how can people be so cruel, yeah, to be hard, easy to become, how can people have no feeling, how can they ignore their friends, easy to say no, especially people who care about strangers, who care about evil, social injustice. Do you only care about the mean crowd? How about a needed friend? I'm hung up on you, easy to be proud, easy to say no.
vous écoutez David Didlot au micro de Culture Prohibée. Et dans les théories les plus que tu développes toi aussi dans l'ouvrage, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que et qui paraît en plus assez plausible, c'est aussi que le tueur, on peut pas dire qu'il était forcément cinéphile, mais en tout cas le ou les tueurs allaient voir les films de peut-être de Seconda Vision, Terza Visione, mais en tout cas aller dans les salles populaires et semble quand même avoir subi une influence. C'est quelque chose dont on n'aime pas trop parler parce que c'est assez caricatural de dire ça, mais en tout cas semble avoir subi une influence du cinéma d'horreur, du giallo, enfin voilà.
Alors écoute, ça c'est totalement. Alors c'est en fait, je vais t'expliquer. Je vais te dire très honnêtement, c'est ça qui m'a, si tu veux, c'est peut-être ça qui m'a le plus, comment dire, fasciné, qui m'a poussé en fait, quand j'ai appris ça, tu vois, en cherchant un peu, en fouillassant, c'est ça qui m'a totalement fasciné et en même temps effrayé, et j'ai même envie de te dire déstabilisé. Parce que si tu veux, il y a, alors, c'est pareil, tu vois, bon, ce sont des théories, hein, tu vois, rien n'est sûr hein, dans cette affaire, hein, rien n'est sûr, hein, mais t'as des gens très sérieux, tu vois, du monde médical notamment, enfin, tu vois, psychiatres et compagnie, si tu veux, qui ont, mais alors pour le coup, élaboré de véritables théories, mais alors avec, si tu veux, pas des preuves, mais enfin, avec moult arguments à l'appui, selon lesquels, des théories selon lesquelles, si tu veux, se serait inspiré, tu vois, de certains films d'horreur, tu vois, de certains thrillers, de certains giallos, quoi, tu vois, de l'époque. Et ça, c'est proprement fascinant. Je pense à notamment des bouquins, enfin, un auteur, tu vois, qui était avocat également, qui faisait un parallèle entre chacun des doubles meurtres du monstre de Florence, si tu veux, et des scènes, des séquences de plusieurs giallos ou films d'horreur. C'est un truc absolu. Alors, bon, moi, j'avoue, je suis plutôt circonspect, tu vois, mais si tu veux, c'est pour nous qui sommes à la fois amateurs d'affaires criminelles, si tu veux, et de cinéma d'horreur, en particulier italien, en particulier de giallo, ou en tout cas de polar, tu vois, bon, je veux dire, c'est proprement fascinant. Il y a toute une théorie qui court, notamment, alors là, ça ne concerne pas un giallo, un giallo proprement parlé, il y a toute une théorie qui court, selon laquelle, si tu veux, le tueur aurait vu Maniac, le Maniac de William Lustig, tu vois, hein, Maniac de William Lustig, et finalement, s'en serait littéralement inspiré. Tu vois, voilà, c'est absolument incroyable, si tu veux. Moi, j'ai lu l'étude, et tu vois, alors en italien, je me suis emmerdé à traduire, tu vois, etc., parce que j'ai du mal quand même à lire précisément l'italien, tu vois. Mais si tu veux, c'est un truc absolument fascinant. C'est absolument fascinant. En fait, les scalps, si tu veux, que le maniaque, hein, que Frank Zito, si tu veux, prélève sur ses victimes de Nil, les scalps, en fait, le monstre de Florence les remplace par les pubis, tu vois, par les pubis. Qu'on peut considérer aussi être comme un scalp, tu vois, d'une certaine manière. Hein, bon, évidemment, beaucoup plus sexué, quoi. Beaucoup plus sexué, ça va sans dire, tu vois. Et donc, si tu veux, c'est un truc absolument fascinant, tu vois. Et ce qui m'a intéressé aussi, si tu veux, c'est le bain culturel. Tu vois, le bain culturel dans lequel on a évolué pendant cette affaire, tu vois. Parce que les principaux meurtres, si tu veux, se sont déroulés au début des années 80. Tu vois, au début des années 80, entre 80 et 85, tu vois, pour la plupart des meurtres. Et si tu veux, c'est la période, si tu veux, où tu trouves en Italie des fumetti, des pornos fumetti, tu vois, à Tirlarigo, tu vois. Et c'est pareil, le bain culturel, si tu veux, de l'époque aurait, selon certains, tu vois, aurait, selon certains, créé une espèce de, comment dire, aurait favorisé, si tu veux, l'émergence, on va dire, de ce genre de fantasme et de ce genre de tueur, tu vois. Alors, ça va un petit peu contre notre chapelle, ce que je te dis, hein, tu vois, parce que ça prouverait finalement que les films d'horreur et que la culture populaire horrifique a des incidences, mine de rien, tu vois, sur les comportements. Mais il n'empêche que, si tu veux, c'est des théories et c'est, des hypothèses qui ont été prises très, très au sérieux, tu vois, à l'époque, hein, des meurtres, tu vois. Et ça, c'est proprement fascinant, proprement fascinant.
Alors, en même temps, bon... ça va contre notre chapelle, mais en même temps, bon, faut être un esprit dérangé. Enfin, je veux dire, pour que ça te pour lire un fou métier, pour un porno fou métier, et puis se laisser influencer, faut être un esprit dérangé. Tout ça, c'est dans le livre. Je précise pour les auditrices et auditeurs. Tout ça, c'est dans le livre. Il y a vraiment, justement, parce que tu t'intéresses à ça, tout le bain culturel qui entoure l'époque, qui entoure l'affaire. L'affaire est aussi dans le livre. Et j'ai envie de conclure cette petite interview par une question simple, mais auquel tu n'as peut-être pas de réponse. Mais après avoir potassé sur le sujet, comme tu l'as fait pour préparer cet ouvrage, est-ce que toi, il y a une hypothèse qui te paraît plus plausible que d'autres ?
Écoute, alors moi, si tu veux, toutes les hypothèses qui ont été, évoquées à l'époque, tu vois, tous les coupables, si tu veux, qui ont été à un moment donné, tous les hommes qui ont été arrêtés, dont on a cru que c'était les coupables, on pense notamment au fameux Pietro Pacciani, tu vois, qui a été vu à un moment donné comme le coupable parfait. Bon, je pense que tout ça, si tu veux, à mon avis, hein, c'est vraiment mon humble avis que je te donne, hein, parce que je ne suis pas dans les arcanes, hein, tu vois, de la justice ni de la police. Je pense que tout ça, c'est du flan. Je penserais de plus en plus, et un petit peu à l'instar de Zaroff, tu vois, je pencherais peut-être de plus en plus, tu vois, comment t'expliquer ça ? Une espèce de punisseur moral, tu vois, parce que les couples, si tu veux, qui ont été tués, si tu veux, étaient des couples en train de se caresser, je te fais pas un dessin, en train de baiser pour aller vite, tu vois. Bon, et donc si tu veux, des couples non mariés, tu vois, je sais pas, j'y vois peut-être, si tu veux, le signe d'un tueur, un peu punisseur, tu vois, du péché. Tu vois ce que je veux dire, hein? Alors c'est un peu romanesque ce que je te dis, tu vois. Mais je pense qu'il y a de ça, tu vois. Il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois. Quelqu'un qui punit les pécheurs en quelque sorte, tu vois. Quelqu'un très fortement marqué peut-être par la morale catholique, je ne sais pas, tu vois. Et qui punirait, tu vois, les pécheurs, parce que tout de même le profil des victimes est quand même édifiant, quoi, tu vois. Et donc je vois ça comme ça. Ouais, je vois ça plutôt sous cet angle-là. Maintenant, je peux me tromper de A à Z, hein. Je ne dis pas le contraire. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Ouais.
Et ce qui est une hypothèse tout à fait plausible, hein, vu quand même la prégnance de l'Église catholique en Italie. Enfin, se mentir. Vois, voilà. Ça reste prégnant. Voilà. Ça nous donne des indices sur le profil. Ça ne nous donne pas d'indice sur l'identité. Le saura-t-on un jour ? Je ne sais pas. C'est le grand mystère. En tout cas, moi, j'invite tous les auditrices et auditeurs à se procurer l'ouvrage donc, Le Monstre de Florence, autopsie d'un mythe criminel, donc signé David Didlot. Il est disponible en ligne, par exemple, auprès directement de videautopsie.blogspot.com, mais il est aussi disponible sur notre site, hein, donc www.lesfilmsdelagorgone.fr. Et puis, bon, c'est un tout petit tirage, donc dépêchez-vous. Parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà.
C'est possible. Oui, je vais tirer un peu d'exemplaires parce que, si tu veux, je sais que l'affaire, si tu veux, du Monstre de Florence, si elle est très très connue en Italie, si tu veux, en France, bon, elle n'est pas si connue que ça. Tu vois, il y a Jacques Pradel qui avait consacré un de ses numéros de l'heure du crime, je crois, tu vois, à cette affaire. Mais sinon, il n'y a pas grand chose, quoi. Tu vois, il n'y a pas grand chose, même au niveau bouquin, tu vois, il n'y a vraiment pas grand chose, quoi. Voilà.
Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee and the Last But Not the Least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Thank you.